mes yeux l'idée que Dieu vous a oublié ou que Dieu ne répond pas à vos prières comme autrefois ou que peut-être même qu'il vous aime plus ou que votre relation avec lui n'est plus la même. Vous savez, il y arrive souvent, ou presque toujours, que chacun de nous qui connaît le Seigneur a connu un moment dans notre vie chrétienne où nous avons dit « Est-ce que Dieu m'a abandonné ?» Vous savez, c'est un sentiment terrible quand on pense que Dieu nous a abandonné. Peut-être on ne l'a pas dit à quelqu'un d'autre parce qu'on n'aurait pas le courage presque de dire, mais on le pense quelquefois. Vous savez, les inconvertis, en ce qui leur concerne, quand les choses terribles arrivent, les catastrophes, des moments d'angoisse dans leur vie, combien de fois ils crient « Où est Dieu ?» Mais où est-il ? Et ça, c'est normal parce qu'on se demande « Est-ce que Dieu ne se rend pas compte ce qu'on souffre, où on passe ?» Quand j'étais garçon, notre famille avait l'habitude de rendre visite à une autre famille qui a un tout petit bébé. Et donc la soirée était bien et le bébé était tout content d'être avec nous. J'avais beaucoup de joie de le faire sourire. Et puis tout d'un coup, la maman prend son enfant, va dans la pièce à côté, dans la chambre du petit, l'a mis au lit, et puis elle est sortie avec un sourire pour se joindre à nous, et puis ça hurle là, ça crie de l'autre côté. Alors moi, garçon, je regarde la maman avec un sourire sur son visage, elle entre dans la conversation, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle n'aime pas cet enfant? Mais est-ce qu'on n'entend pas qu'il crie là-bas? Et puis non, ça a continué comme ça. Et vous savez, je sais une chose, que quand cet enfant avait vraiment besoin d'elle, elle était là, ou pour lui donner à manger, ou pour changer ses couches. Mais pendant que cet enfant pensait que peut-être maman m'a abandonné, elle était à quelques mètres de l'autre côté de la cloison. Vous savez, il y a beaucoup à apprendre par cette petite illustration. Il est tout près de nous. Est-ce que Dieu nous abandonne, nous qui le connaissons? Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce qu'il cesse de répondre à nos prières? Non. Est-ce qu'il arrive qu'il reste silencieux quand on a vraiment besoin de lui et quand on crie vers lui? Oui. Et ça, une chose que nous ne comprenons pas. Mais combien de fois ça arrive? On peut se demander, mais pourquoi? Vous savez que on trouve dans la parole de Dieu des réponses à cela. Et nous allons les regarder maintenant ensemble, petit à petit. C'est que Dieu ne nous a pas abandonnés, mais Dieu peut rester silencieux. Et le sujet de mon message ce matin, c'est le silence de Dieu. Chose qu'on ne comprend pas. Et mon texte se trouve en Jean chapitre 11, et où Jésus rend visite, ou a rendu visite plutôt, à une famille très connue pour lui et pour les disciples. En Jean chapitre 11, on lit ceci. « Il y avait un homme malade, Lazare. Il était de Béthanie, village de Marie et Marthe, sœur, et c'était sept Marie qui oignit les pieds du Seigneur et qui les essuya de ses cheveux. Et elle, c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Alors, Jésus aimait Marthe et sa sœur et son frère, Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Je m'arrête là parce que c'est ça qui est, je veux attirer l'attention. Jésus et ses disciples avaient l'habitude d'être chez Marie, Marthe et Lazare. Ils avaient une grande maison, assez grande pour recevoir non seulement tous les 12 disciples avec eux et des voisins. Et c'était là où Jésus s'est rendu assez souvent. Et il y avait une amitié qui se créait là, mais très fort. Jésus aimait cette famille et cette famille aimait Jésus. Et tout d'un coup, le frère Lazare tombe malade. Et chose normale, elles envoient pour que Jésus vienne et le guérisse, parce qu'elles étaient absolument persuadées que Jésus pouvait le guérir. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que quand il a reçu le message que Lazare était mort, au lieu de se presser pour aller le guérir, il reste encore 2 jours. Jusqu'à ce que Lazare soit mort. Vous savez, qu'est-ce qui a dû passer dans le cœur de Marie et Marthe pendant ce temps-là? Mais est-ce qu'il nous aime vraiment? Il nous a dit qu'il nous aimait, mais est-ce que c'est vrai? Mais où est-il? Mais où est-il? On a besoin de lui maintenant. Et Lazare est mort. Voilà le sujet. Ce matin, le silence de Dieu. Vous savez, on ne comprend pas toujours tout ce que ça veut dire. Dieu, dans le temps, a parlé par ses prophètes à Israël. Et Israël n'écoutait pas du tout ce que les prophètes ont dit. Les prophètes ont dit Dieu allait les juger, mais sévèrement, mais au lieu d'écouter les prophètes, ils les ont tués, les uns après les autres. Au fur et à mesure que Dieu les a envoyés, ils les ont tués. Vous savez, finalement, Dieu s'est arrêté. Il n'a plus parlé à Israël. Et son silence n'a pas duré une semaine ou 2 semaines. La Bible montre que le Dieu qui a créé l'humanité est resté silencieux pendant 400 ans, sans prononcer un mot et sans envoyer un seul prophète. Vous savez, 400 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, mais moi, vivant en Amérique, je le sais parce que notre pays est là-bas et à 200 ans. On est tout fiers d'avoir 200 ans. Pendant les 200 ans, on avait 45 présidents, on a vu la guerre d'indépendance, la guerre civile, la guerre de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la guerre avec, etc., etc. On a passé par maintes épreuves, par toutes sortes de choses, et ça fait que 200 ans. Et c'était 400 ans que Dieu n'a pas parlé, et c'était dur. Et vous savez, le silence de Dieu est une épreuve terrible. Je ne sais pas si vous avez jamais eu le silence de Dieu. Vous avez goûté ça ou non? Il vous semble que Dieu vous a abandonné. Et jamais quelqu'un n'a connu cela autant que Job. Combien je suis content que le livre de Job est dans la Bible. Parce que lui aussi n'a rien compris. La Bible dit même que Dieu, de son côté, a dit que c'était un homme intègre. Et lui, de son côté, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il aimait Dieu, il obéissait à tout ce qu'il a demandé, il était intègre, il était droit. Et pourtant, regardez ce qui lui est arrivé. Et Dieu, pendant toutes ces épreuves, resta silencieux. Vous savez, c'est formidable de pouvoir lire cela, parce que ça peut nous encourager des gens, les moments de silence de Dieu. De savoir qu'il y a une raison derrière que nous ne comprenons pas. Il y a une raison. Une chose est sûre, rappelez-vous que si jamais Dieu est silencieux dans votre vie, que Dieu ne vous a pas abandonné. Ça, c'est sûr et certain. Vous savez, avant d'être sauvé, on était séparé de Dieu. Mais quand on accepte le Seigneur, on se joint à Dieu et on est un avec Dieu. Et avec cette union avec Dieu, Dieu reste toujours tout près de nous. Souvent, on a l'impression qu'il faut persuader Dieu. On est presque agité dans la prière. Et on n'a pas besoin parce qu'il est là, il nous aime. Il nous aime intensément, il est tout près de nous. Il est en nous. On n'a qu'à lui dire, Père, j'ai besoin de ceci et je sais que tu m'écoutes, même si je ne sens rien. Je sais que tu es là. Seigneur, tu m'aimes. Dieu reste toujours fidèle à sa parole. Il ne nous oublie jamais. La Bible dit, une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle a allaité? Oui, je vous dis, elle peut, mais moi je ne vous oublierai jamais. Je serai toujours avec vous. Vous savez, quand Dieu est silencieux dans votre vie, il ne vous a pas oublié. Hein? Il est tout près. Il faut se rappeler de cela. Il ne vous a pas abandonné. Je ne prétends pas connaître toutes les raisons du silence de Dieu. Parce que le silence de Dieu reste un mystère souvent. Mais je peux en donner trois. Raison qui me vient à l'esprit. Trois raisons qui poussent Dieu de rester silencieux envers nous. Le premier, c'est d'attirer notre attention. On est tellement pris dans la vie. La vie est tellement mouvementée, on a toujours des problèmes, toujours des obligations, on est obligé d'aller ici. Il y a les problèmes des autres aussi qui sont sur notre cœur et tout cela. Et on fait tout sauf d'être près de Dieu. On oublie Dieu. On oublie Dieu dans tout cela. On ne prend pas le temps d'être avec lui. Il aime notre communion. Il veut qu'on soit avec lui. On dit, oh, je n'ai pas le temps. Vous savez, vous n'avez pas le temps d'être avec celui qui vous a créé, celui qui vous aime, celui qui est mort pour vous. Vous n'avez pas le temps pour lui. Oh, c'est-à-dire que non. Il faut prendre le temps. J'ai appris une chose dans ma vie. Je n'ai jamais le temps d'être avec Dieu. Oh, j'ai le temps de regarder la télé, regarder mon ordinateur et tout ça. Oui, mais ça, c'est normal. Mais vous savez ce qu'il faut? Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Non, je veux être seul avec Dieu. Je veux lire la Bible. Je veux faire cela. Ce que je vais dire maintenant, les célibataires ne vont pas comprendre. Mais vous qui êtes mariés, vous allez bien comprendre. Voilà, ce qui arrive, c'est que le mari, quelquefois, oublie l'anniversaire de mariage, l'anniversaire de sa femme. Il dit quelque chose un peu durement. Et il y a une petite querelle, bon, rien de grave, mais une petite querelle, n'est-ce pas, comme ça. Et il attend que sa femme dise quelque chose. Ah non, silence. Oh là là. savez, quand elle est silencieuse, ça va mal. Oh, je sais que ceux qui vont se marier pensent que ça n'arriverait jamais à moi. Mais on en parlera plus tard. Et pourquoi fait-elle cela? Pourquoi? Vous savez, ça arrive tellement souvent en Amérique, on appelle ça « the silent treatment », le traitement de silence employé par les femmes qui veulent faire quoi? Attirer l'attention de son mari. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est silencieuse parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut le régler. Il faut faire le nécessaire, demander pardon ou porter des fleurs pour l'anniversaire ou quelque chose. Donc, pour Dieu, il cherche notre communion. Et quand il est silencieux, peut-être il est silencieux seulement parce qu'il veut que vous preniez le temps de le chercher. Parce que quand, tout d'un coup, quand quelque chose vous arrive, sérieux, « Oh, Seigneur, me voici. Seigneur, tu vois ce qui m'est arrivé. » Et puis, silence. Oh là là. Mais c'est maintenant dont j'ai besoin de silence. Pourquoi ce silence? Pour attirer notre attention. Pour qu'on soit avec lui. Qu'on prenne le temps d'être avec lui. Qu'on le connaisse mieux. Qu'on le laisse vivre sa vie à travers nous. Et qu'on connaisse quelque chose de plus grand dans notre vie. Oui, il y a d'autres raisons aussi. C'est pour qu'on persévère. La persévérance. Il y a des gens dans le monde qui ont la persévérance. Vous savez, les inventeurs, ceux qui ont inventé les ampoules, l'utilisation, les radios, la télévision. Vous croyez qu'ils ont arrivé premier coup? Absolument pas. Quand vous lisez l'histoire de ces hommes-là, mais cet essai après essai, après essai, après essai, persévérance, vous savez que des hommes qui ont vraiment marqué les nations pour Christ, ils ont persévéré. Les grandes églises n'ont pas poussé pendant la nuit comme les champignons. C'est le travail dur de prêcher, de prêcher, de prier, de pleurer. Et alors, petit à petit, grandit persévérance. Mais nous ne sommes pas très persévérants aujourd'hui. La patience n'est pas forcément ce qu'on cherche. On doit avoir la patience. C'est quelque chose pour lequel on doit prier. Vous savez, il y a cette femme chrétienne. Elle a appris un jour par un pasteur tous les grandes bénédictions viennent de la patience. On n'est pas stressé, on est joyeuse, on confie tout à Dieu. Il faut être patient. Oh, elle a crié vers Dieu, « Seigneur, donne-moi la patience et donne-la-moi tout de suite. » Mais vous savez, ça c'est le... Ça, c'est dans l'esprit de nous tous, c'est ça. Quand on prie, on veut avoir la réponse tout de suite. Et vous savez, c'est la persévérance qui forme les hommes de Dieu. Les hommes qui sont persévérants sont des colons de l'Église. Les femmes aussi. Vous savez, quand tout ceci arrive, Dieu est silencieux et il est comme ça avec des jeunes et comme avec les autres. Mais vous savez, quand Dieu est silencieux pendant longtemps et l'homme ne répond pas à son silence, Dieu a un autre moyen d'attirer notre attention. En Hébreux chapitre 12, verset 6, j'aimerais que vous regardiez ce passage avec moi. Hébreux 6, verset 12. C'est pas ça? J'aurais dû le souligner. Qu'est-ce que tu as?
Chapitre 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime.
Voilà. Car le Seigneur châtie celui qu'il
aime.
Pas celui qu'il déteste. Hein? Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Le châtiment est une preuve d'amour. Vous prenez par exemple un père qui voit son fils faire quelque chose. Et il sait pertinemment que s'il continue, ça va être un détriment dans sa vie future. Mais au lieu de le corriger, il le laisse aller. Vous savez, c'est dur pour un père, chaque fois que le fils commence à dévier, de prendre ce fils et clac, 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 vous savez, c'est dur pour un père de faire cela. Mais ça montre au fils, finalement, qu'il aime. Et il préserve son fils de beaucoup de malheur par la suite. Et le Seigneur fait autant. Et quand un fils ne veut pas revenir à lui, ne veut pas céder, le Seigneur a des moyens, il lui parle. Il a un moyen de lui parler très fort. Combien de fois j'ai connu des jeunes qui ont eu des accidents terribles, ou des jeunes qui sont tombés très malades. Et on dit, mais est-ce que Dieu ne les aime pas? Oui, justement, il les aime parce qu'il les châtie. Pourquoi? Parce que Dieu sait tout. Il sait ce qui va se passer par la suite. Il sait que si ce jeune homme ou cet homme continue sur la voie qu'il a prise, que ça va être sa ruine totale. Il sait que ça va le détruire totalement. Et parce qu'il aime son fils, il permet que cette chose arrive pour lui ramener à lui. Parce que quand on est à plat dans un lit, on ne regarde qu'en haut. Et ça, il faut des fois que cela arrive pour que la personne cède. Oh, c'est terrible! Dieu ne veut pas qu'on soit comme des chevaux qu'il faut mettre quelque chose dans la bouche pour le tirer. Il veut simplement parler en disant, « Mon fils, est-ce que tu veux faire ça? Mon fils vient ici. Mon fils va là-bas. » Et d'avoir une obéissance. Je pense à Esaïe, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » C'est ça que le Seigneur veut. Il ne veut pas tirer constamment. Il veut un cœur qui marche tellement près de lui qu'il n'a qu'à dire un mot et le Fils obéit. Ça, c'est le secret de la vie puissante avec Dieu. Oh oui, il y a une autre raison aussi que je donne. Oh, je ne connais pas toutes les raisons du silence de Dieu, mais je vous en donne un troisième. C'est que Dieu réserve quelque chose d'extraordinaire après le silence. Dieu éprouve pour voir ce qu'il est. Et puis, il lui donne des choses extraordinaires. Regardons ces deux. Lazare. Non, il n'a pas guéri Lazare. Non, il a ressuscité des morts. C'était le plus grand miracle que Christ a fait pendant son séjour sur terre. La résurrection d'un homme après 4 jours. Dieu nous réserve des grandes bénédictions, mais il faut rester accroché à lui, de lui faire confiance. Et si le silence est là, c'est que quelque chose de grand va venir par la suite, à la gloire de Dieu. Regardez, après les 400 ans, oh oui, c'était terrible, mais est-ce que Dieu a jamais rompu le silence? Oui. Avec la venue de Christ lui-même, le Fils de Dieu, qui est venu sur terre. Et vous savez toutes les bénédictions qui sont venues avec lui. Non, il faut qu'on persévère. Il faut qu'on continue. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Je suis persuadé moi-même que Dieu nous réserve de grandes choses. Mais il veut qu'on persévère. Et que son silence, momentanément, ne veut pas dire qu'il ne nous écoute pas. Oh, je pense à vous qui êtes inconvertis ce matin. Vous n'avez jamais goûté la vie éternelle. Vous ne savez pas de quoi je parle. Vous savez, vous dites ce matin, mais moi quand je prie, Dieu ne me répond pas. Si, il répond. Je vais vous dire pourquoi. Il vous a amené ici. Mais vous dites, mais ce n'est pas ça que j'ai demandé. Non, je sais. Et Dieu le sait aussi. Mais Dieu sait qu'il a quelque chose de meilleur de ce que vous avez demandé. Regardez la Samaritaine. Elle est allée chercher de l'eau au puits. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé? La vie. Elle a trouvé une telle joie qu'elle a annoncé cela à tout le village et tout le village est venu pour accepter le Seigneur. Dieu vous parle. Et s'il vous a amené ici, c'est parce qu'il veut vous donner quelque chose beaucoup mieux que ce que vous avez demandé. Il veut vous donner la vie éternelle. Il veut que ça soit réel dans votre cœur. Vous avez peut-être jusqu'ici laissé tomber l'invitation. Mais ce matin, Dieu vous dit, je vous aime. Nous avons un choix, chacun de nous, ou d'embrasser cette vie éternelle avec nos deux mains et dire, Seigneur, je viens à toi de tout mon cœur, sauve-moi, lave-moi, fais en sorte que j'ai une conscience pure devant toi, ou on peut dire non, je vais continuer mon chemin. Vous demandez une petite chose et Dieu vous donner quelque chose de plus grand. Le monde cherche toujours les plaisirs. Oh, par exemple, on peut dire, Seigneur, oh, si j'avais une nouvelle voiture. Vous savez que la vie éternelle est 100 millions de fois plus grande qu'une nouvelle voiture. Oh, nous sommes éblouis par les choses de ce monde. Au lieu de dire, Seigneur, donne-moi ce que je ne sais pas parce que le ciel est tout. Dieu est tout. Et les choses de ce monde passent. Et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Oh, ce matin, si Dieu est silencieux pour vous, profitez-en pour venir à lui et de dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu es silencieux, mais de toute manière, me voici de tout mon cœur. Nous allons nous lever maintenant pour chanter le cantique.